Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous revoir depuis un mois. Je vais vite laisser la parole à Sophie qui s'en va. Et ensuite, on va surtout laisser le micro à César. César Imbert, ici à ma gauche, qui nous épaule maintenant avec Sophie, on est trois à gérer ce séminaire. Et c'est César qui a organisé cette séance, qui a tout fait. Du coup, Sophie et moi, on va surtout pas beaucoup parler et César va parler. Merci.
Oui, et juste souligner que c'est la première fois où on a la chance d'accueillir à la fois une universitaire, une conservateur de musée et une jeune créatrice. Donc pour nous, c'est un peu une première et je crois que Dominique vous dirait aussi que c'est une première. Dans le séminaire, on a l'habitude de recevoir beaucoup d'universitaires ou de conservateurs ou d'archivistes. Et là, on a un beau trio. Donc, on est ravis et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je te donne la parole.
Bonjour à tous. Du coup, c'est un plaisir de vous voir et d'accueillir nos trois intervenants que je vais vous présenter. Clara Daguin, Geneviève Sérial et Shazia Boucher, qui donc, vont vous parler de la mode et de ses relations avec les nouvelles technologies. Et les applications des nouvelles technologies sur le vêtement. C'est un sujet, on a eu l'idée au début de l'année, suite à une actualité de plus en plus importante, ce soit au niveau de la recherche académique, mais aussi des pratiques artistiques des créateurs qui utilisent de plus en plus les nouvelles technologies, et aussi dans les musées où on a des expositions qui traitent de plus en plus de ce sujet. Donc, il y a eu Manus Ex Machina au Met et l'exposition Iris Van Herpen dont va nous parler Shazia Boucher maintenant. Donc, Shazia, je vous propose de venir. Alors, vous êtes conservatrice du patrimoine.
Voilà.
Donc, vous êtes conservatrice du patrimoine, directrice adjointe des musées de la ville de Calais. Donc, vous avez fait un bachelor à la Xavier University dans l'Ohio, aux États-Unis, et un DEA en histoire de l'art et d'archéologie à l'université Paris 4, à la Sorbonne. Donc, vous intégrez en 1995 l'équipe de conservation de l'ancien musée des Beaux-Arts et de la Dentelle pour œuvrer à la création de ce qu'on connaît maintenant sous le nom de la Cité de la Dentelle et de la Mode, qui ouvre ses portes en 2009. Donc, en tant que responsable des collections vestimentaires de 1995 à 2013, vous travaillez à la connaissance et à l'enrichissement des collections, qui étaient largement insuffisantes en vue de l'ouverture d'un musée qui était dédié à cela. Et pendant cette période, vous vous spécialisez donc à l'étude de l'histoire de la mode, et plus particulièrement dans l'étude de la lingerie. Vous réalisez durant cette période le co-commissariat de plusieurs expositions sur le sujet donc de la lingerie, une exposition intitulée 25 ans de lingerie ou la dentelle sans dessus-dessous en 1997. Plaisir de femme, Chantal Thomas, 30 ans de création en 2002 et Esprit Lingerie en 2010. En 2013, vous êtes nommée responsable du service des expositions et vous organisez en tant que commissaire général plus de 20 expositions, dont récemment Hubert de Givenchy, donc en 2017, qui maintenant résonne d'une façon particulière. Mode in Taiwan en 2017, Anne-Valérie H. Décrionnée en 2016 ou encore Balenciaga. Magicien de la dentelle en 2015,
La commissaire
avec Madame Catherine Jeandéterle qui nous fait l'honneur d'être là. Vous êtes co-auteur du livre Les Dessous féminins, qui est paru aux éditions Parkston Press en 2004, et vous avez participé à divers documentaires sur l'histoire de la lingerie, et notamment le documentaire Les Dessous de la féminité de Christophe Tourette, diffusé sur Arte en 2007. Aujourd'hui, vous prenez la direction adjointe des musées de la ville de Calais, et vous êtes en charge du service des expositions des deux institutions. Donc, vous travaillez actuellement sur la programmation des expositions pour 2018. Donc, la première ouvrira le 9 juin 2018 et a pour titre Haute dentelle. Et la deuxième ouvrira le 7 avril 2018 et a pour titre Jane et Serge, album de famille par Andrew Birkin, au Musée des Beaux-Arts de Caen. Donc, voilà, c'est un plaisir de vous accueillir et je vous laisse la
Merci,
parole.
merci à vous, César. Bonjour à tous et merci donc de votre présence si nombreuse aujourd'hui. Voilà, en fait, on m'a contacté il y a quelques mois pour me demander de participer à ce séminaire autour des nouvelles technologies et la mode. Donc, j'étais enchantée à cette perspective-là parce que, habituellement, effectivement, on travaille sur une thématique d'une technologie hein, de tissage qui a fêté ses 200 ans. Vous voyez, on est sur une technologie assez ancestrale, qui d'ailleurs en fait appuie elle-même sur une technologie de main, hein, de travail manuel, mais ça n'empêche pas que le musée aussi suit de très près les évolutions en fait aujourd'hui dans le domaine en fait de la mode et des nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, je vais vous parler de le travail en fait de la maison Iris van Herpen. En fait, nous sommes très tout de suite intéressée en fait à cette jeune créatrice dès sa première venue à Paris en 2011 quand elle était membre invitée en fait pour présenter son défilé à Paris. Et très vite sa démarche nous a intéressée. Il se trouve que à partir de cette année-là, de 2011 à 2014, la Cité de Dentelle a participé dans un projet européen qui s'appelle Chrysalis, avec donc trois autres partenaires, 12 universités britanniques et un pépinière de jeunes créateurs textiles en Belgique. Et dans le cadre de ce projet qui était quand même très, très ambitieux, il y a eu plusieurs volets, dont un volet autour en fait de la valorisation de cette thématique-là, de l'innovation textile à travers l'organisation des expositions. Donc chaque partenaire membre était invité à organiser une exposition. Or, nous, à la Cité Dentelle, ça nous a tellement inspiré que nous-mêmes, nous avons organisé finalement 3+1 exposition. On a fait 3 dans le cadre du projet Chrysalis et en fait, à la suite des rencontres durant ces années, nous avons invité une jeune maison de design et de mode à présenter leur travail. Donc au final, on a pu faire 4 expositions autour de cette thématique de l'innovation textile. Bien entendu, le plus important était l'exposition dédiée à Iris van Herpen. Vous avez là en fait l'affiche. Voilà, c'est ça. Vous avez l'affiche en fait de l'exposition. Alors au moment où on s'est intéressé à Iris van Herpen, c'était très tôt, hein, en 2011. On a pris contact avec la maison de couture qui était quand même très ouverte à l'idée de présenter son travail. Et quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que en fait il y avait le musée de Groningen qui allait présenter son première exposition en fait monographique à peine 5 ans après l'ouverture de la maison. Donc avant de passer en fait à cette exposition là, donc à la suite de cette première présentation d'Iris van Herpen, nous avons organisé donc une série d'expositions qui s'appelait Lace Effect 1 et 2, dans le cadre toujours du projet Chrysalis. C'était un cadre un peu différent parce que là, c'était un appel à projet. En fait, on s'est servi de ce réseau qu'on constitue avec nos partenaires européens pour lancer un appel aussi bien aux étudiants, mais les professeurs et les professionnels, artistes, plasticiens, pour leur inviter en fait à se saisir la dentelle comme objet ou sujet en fait de la création contemporaine pluridisciplinaire. Et les réponses étaient tellement riches et variées qu'on a pu organiser dans 2 expositions au lieu d'une. Suite de cela, en fait, on a rencontré dans une jeune marque qui s'appelle Modern Love dans le cadre de ces rencontres, dont une marque britannique qui est une marque de design et de mode autour de la création de l'impression en fait numérique en textile. Et donc nous avons pu aussi donc présenter en fait Aventure numérique l'année suivante en 2015. Pour revenir à cette exposition, donc nous avons dédié à Iris van Herpen. Là vous avez une vue générale de l'exposition à Calais. Donc à l'origine en fait cette exposition, en fait c'est le musée de Groningen aux Pays-Bas qui a organisé cette première expo monographique d'Iris, comme je vous ai expliqué, dès 2012, donc à peine 5 ans après en fait qu'elle a créé sa marque. Alors c'est intéressant parce que le musée de Groningen a une pratique de soutien aux jeunes créateurs que moi j'envie beaucoup parce qu'en fait ils produisent les œuvres des jeunes créateurs très tôt en fait hein, dans leur carrière, et en échange en fait d'une aide à la création, ils deviennent propriétaires en fait de ces œuvres. Donc il se trouve c'était le cas dans ses débuts pour Iris van Herpen. Donc au final, au lieu de demander directement de créer une nouvelle exposition avec la créatrice, nous avons décidé donc en fait de faire une reprise partielle de l'exposition de Groningen, puisque les 3/4 des pièces qui étaient présentées appartenaient désormais en fait au musée Groningen. Et le dernier cas appartenait bien sûr directement à la créatrice. Donc l'exposition que nous avons présentée à Calais était effectivement une reprise partielle de celle qui était présentée à Groningen, puisque tout simplement nos espaces d'exposition sont plus petits que ceux qui se trouvent à Groningen. Alors, l'intérêt de Calais pour l'œuvre d'Iris, comme je vous ai expliqué tout de suite, en fait, c'est une créatrice qui nous a intéressés, c'est que la démarche de cette créatrice fait coexister les gestes artisanaux, les savoir-faire traditionnels de la couture avec la recherche. Et en fait, cette recherche qui la pousse à se tourner vers les matériaux non usités en couture et de s'associer à des personnes dans des domaines très éloignés traditionnellement de la couture. Des scientifiques, des ingénieurs, des architectes, des plasticiens, des musiciens. Et ceci l'amène aussi très naturellement à intégrer de nouvelles technologies dans ses créations. Elle a été, bien entendu, la première couturière à réaliser un vêtement avec la technologie de l'impression 3D. Là, vous voyez d'ailleurs sur l'image l'ensemble de droite, le haut. Cette série-là, qui s'appelle Cristallisation, le haut est réalisé entièrement en une pièce avec la technique de l'impression 3D. Donc, pour expliquer un petit peu la démarche en fait, de la créatrice, dont Iris Van Herpen, hein, une jeune couturière, trentaine aujourd'hui, elle est née à Wamel, aux Pays-Bas, en 1984. Elle étudie dans une académie d'art, mais elle étudie le fashion design à l'académie de Arthez à Arnhem. Et très vite, après ses études, elle crée directement sa maison, donc en 2007. Et elle défile à Paris en tant que membre invité à partir de 2011. Donc Iris Van Herpen, elle considère la haute couture comme l'endroit pour expérimenter les nouvelles techniques, un laboratoire de recherche, loin de la démarche de production commerciale. Et même si aujourd'hui, elle a une ligne de prêt-à-porter, cette dernière s'inspire de ses recherches menées dans la haute couture, pour ses collections haute couture, bien sûr en simplifiant les techniques, mais en fait, même son prêt-à-porter reste largement artisanal. Là, vous avez quelques détails de ses premières collections. Pour résumer la démarche de la créatrice en une phrase, ce qu'elle cherche à faire, c'est donner une forme matérielle à de l'immatériel. Cette intention première guide le choix des matériaux et des techniques. Elle laisse une grande place à l'intuitif, aux expérimentations et aux heureux accidents. Questionnée sur son processus de création, elle répond « il n'y a pas de recette ». En partant de l'intention d'explorer l'essence de la matière, cette dernière qui peut être aussi bien considérée comme émotion que phénomène scientifique dans le sens le plus large, elle laisse libre expression à ses idées et à partir le plus souvent d'une structure ou d'une matière spécifique, elle va expérimenter. Et c'est souvent en expérimentant ces matières qu'un design prend forme. Si Iris Van Herpen s'intéresse aux innovations technologiques, elle ne cherche pas à tout prix à les intégrer dans ses créations. En fait, elle cherche plutôt à trouver les matières et les techniques qui permettent de mieux s'approcher de son intention hein, ou son idée première. Dans son processus, comme j'ai expliqué, en fait, la collaboration avec des personnes de milieux très, très différents est également très présente. Et c'était très marquant quand j'ai pu visiter son atelier, en fait, quand on préparait l'exposition en 2013, de voir dans son atelier toutes les personnes, des jeunes stagiaires qui venaient des horizons très différents. En fait, il n'y avait pas uniquement que des étudiants qui avaient fait des écoles de mode design, mais il y en avait des étudiants qui étaient en informatique, des étudiants qui étaient en recherche cabinet d'architecture. C'était des milieux extrêmement différents et je pense que tout ça, ça nourrit énormément son travail. Là, vous avez un exemple, en fait, c'est le mannequinage pour l'exposition de la robe squelette, hein, Skeleton Dress, qui est, en fait, une pièce réalisée en deux morceaux, en impression 3D. Alors les matériaux sont très divers maintenant, mais souvent c'est des matériaux qui sont base de polyamide dans ces premiers exemples. Maintenant, on peut faire de poussière de beaucoup de types de poudre, de beaucoup de types de matières différentes. On peut même utiliser du chocolat dans l'impression 3D. Donc pour prendre l'exemple sur sa démarche à partir de quelques collections spécifiques, là, vous avez une image donc, de la même robe, hein, l'image... je vais dire de photoshooting, on va avoir la robe toute seule. Et puis là, vous avez les coulisses de la préparation de l'exposition à Calais, où on voit la robe qui est suspendue entre deux grands portants. Vous voyez l'ampleur que prend la robe. Dans cette robe, en fait, qui est issue de la collection Refinery Smoke, qui date de juillet 2008, cette collection est née de l'interrogation de est-ce qu'une matière peut reproduire l'effet créé par des nuages de fumée industrielle suspendus dans l'air. Souvent, en fait, elle, est, comme tous les créateurs, est très observatrice. Et comme elle a ses ateliers en ville, se trouve à côté des usines, observe aussi hein, ces phénomènes atmosphériques. Donc ici, en fait, elle cherche la matière la plus adéquate pour tenter de fixer les qualités de la fumée dans ces volutes mouvantes, fluides, insaisissables. Et pour cela, elle fait tisser un textile, un type de gaz, à partir de fils métalliques. Donc d'un matériau dur et froid, elle en fait un tissu aussi dur à l'œil qu'un nuage, pouvant se plier à toutes les formes imaginées par la créatrice. L'effet de l'oxydation de ces fils avec le temps, de ce gris argenté que vous voyez là, à l'origine de celui-là, déjà quelques années après, hein, qui devient un marron bronzé. Si ça n'a pas été nécessairement calculé par la créatrice au départ, elle l'assume entièrement comme un élément rappelant la nature mouvante et changeante de la fumée. C'est une œuvre en évolution. Alors, parfois, les musées ont des soucis, parce qu'effectivement, c'est des œuvres qui vont continuer à évoluer dans le temps. On en a parlé tout à l'heure aussi, avec la technologie prototypale hein, de certaines de ces œuvres. Alors, deux autres exemples qui viennent de la collection Cristallisation de juillet 2010. Là, vous avez la robe qui s'appelle Splash Dress, dont la robe éclabousse. Les modèles de cette collection sont inspirés de la fascination de la créatrice pour l'eau dans tous ses états, l'état liquide, solide ou gazeux. Dans ce modèle, Splash Dress pourrait sembler être le résultat en fait, d'un processus industriel ingénieux hein, pour avoir cet aspect. Or, en fait, ici, il s'agit uniquement d'un procédé artisanal réalisé avec un pistolet d'eau chaude, de l'air chaud, une pince et beaucoup, beaucoup de patience. Et là, vous avez donc dans la même collection cet ensemble avec l'eau eau, donc eau, entre guillemets, qu'on pourrait peut-être appeler coquillage. Et ici, c'est, voilà, c'est la première représentation de cette technique d'impression 3D pour le vêtement réalisée pour sa collection Cristallisation. Ici, c'est les enroulements de cette eau peuvent évoquer les fossiles ammonites préhistoriques, les pièces issues des collections suivantes, Escapisme ou Capriole en 2011, avec leur jeu de plein et de vide, deviennent de véritables en fait, dentelles en 3D. Vous allez en avoir des exemples après. On continue sur les pièces en 3D. Donc, en fait, le processus de design en 3D prend 2 à 3 mois. C'est réalisé en collaboration avec un architecte. Ici, dans le cas de ce haut, l'architecte était Daniel Wiedrig. On détermine d'abord en fait, une structure de 3D que la créatrice dont Iris Van Herpen va retravailler au dessin jusqu'à ce qu'elle soit contente en fait, du motif de dessin. Et une fois satisfait du résultat, là, c'est l'architecte qui numérise en fait ce motif, ce dessin. Et l'impression est confiée en fait à une société spécialisée. Ici, c'est la société Materialize, qui est une société belge qui a travaillé sur les premières créations en 3D avec Iris van Herpen. Dans un entretien accordé au CNN Style et rediffusé sur fashionmag.com le 20 mai 2016, elle parle de la technologie 3D. Et je la cite. « La beauté des motifs 3D provient de leur uniformité. Ils me font penser au processus que l'on peut observer dans la nature, formant des lignes extrêmement fines, presque comme des empreintes digitales. Je n'aurais pu arriver à un tel degré de complexité si j'avais réalisé certaines pièces à la main. » Pour revenir un petit peu à ce que j'ai appelé le lexique, le vocabulaire, le style, en quelque sorte, d'Iris van Herpen, parce que maintenant, déjà à l'époque, on présentait 5-6 de ses collections hein, dans l'exposition. Maintenant, on a un peu plus de recul avec les années. Il y a un vocabulaire quand même qui ressort hein, d'une collection à l'autre. On retrouve certains matériaux et techniques qui forment la base en fait du lexique de la créatrice. Il y a le métal qui travaillait sur des formes très très différentes. Là, vous avez une pièce d'une de ses premières collections hein, qui s'appelle Chemical Crows de janvier 2008, où ces formes-là, en fait, toutes les tiges en métal sont formées à partir des tiges des parapluies d'enfants, parce qu'il fallait avoir des petites tiges métalliques. Et le titre Chemical Crows en fait vient de encore en fait une notion d'observation que la créatrice quand elle regardait à travers les fenêtres de son atelier en fait juxtaposé était une centrale un terre-plein végétal où il y avait des arbres et des oiseaux qui venaient nicher et en fait c'était des oiseaux qui les crows en français là le mot m'échappe. Bon, voilà, merci. Donc, c'était des corbeaux et les corbeaux ont cette tendance en fait à chercher à piquer des petites pièces qui brillent et les stocker chez eux. Donc, elle regardait ces corbeaux et ça l'a inspirée à faire un travail avec ces éléments qu'elle aussi reprocher un peu au travail de métamorphose de la recherche d'alchimiste aussi, de transformer le métal en or. Donc il y avait tous ces éléments-là qui sont entrés en fait dans cette première travail qu'elle a réalisé et d'où le titre de Chemical Crows. Donc le travail du métal sous des formes très différentes, le travail aussi le cuir qui revient là. Vous avez une pièce de sa collection Mummification de janvier 2009. Le cuir est travaillé très diversement, en lanière, lacet, troué, associé aux chaînes, au métal. Là, vous avez un autre exemple, hein, donc il revient quelques années après, la collection Micro, où là, on voit le travail en fait vraiment de filigrane, hein, de dentelle lacée. Et aussi un trait du travail d'Iris van Herpen, c'est que les interstices, les vides entre les matières sont presque plus importantes que les matières pleines. En fait, ce qu'elle voit, c'est justement ces vides. Ce qui était aussi un attrait pour nous qui travaillons aussi près de la technique de la dentelle, où aussi les vides en fait, composent aussi, bien sûr, le motif de la dentelle. Là, vous avez simplement d'autres exemples de ces collections. Là, encore la collection Mummification. Une autre pièce d'une collection qui s'appelle Radiation Innovation. Et où là, la source d'inspiration du travail d'Iris, c'était tout ce qui était les rayons électromagnétiques, tout ce qui était rayons invisibles, donc qu'on ne voyait pas, qu'on ne sentait pas, mais qui, bien sûr, en fait, nous influe au plus près de notre corps, qui nous bombarde en fait, tous les jours de manière constante. Et là, elle imaginait en quelque sorte la trajectoire en fait, de ces rayonnements au moment où ils entraient en contact en fait, avec le corps à travers ces vêtements. Donc, je parlais du cuir, bien sûr, les feuilles d'acrylique aussi, qui est en fait, bien sûr, une matière qui n'est pas usuelle dans le couture, mais qu'elle a découvert dans une enseigne d'architecte et qu'elle a commencé à manipuler, à travailler différemment. Là, vous le voyez plutôt sous forme de lanière. Là, vous avez donc cette collection Capriole de juillet 2011 avec ce qu'on appelle le snake dress. Alors, il y a eu beaucoup d'écritures autour de cette pièce qui faisait penser effectivement à l'ensemble sculptural de Lacan. Pour elle, en fait, elle raconte l'histoire de cette matière-là, ces feuilles d'acrylique qu'elle commence à manipuler, qu'elle roulait et qu'elle les mettait les unes dans les autres et qu'elle formait des longs tubes. Et ça commençait, en fait, à... Elle avait envie de continuer à pouvoir les manipuler. Donc, elle avait demandé à son atelier de faire des rouleaux de cette matière-là qu'elle a commencé à manipuler. Et c'est ainsi qu'elle a constitué, en fait, cette robe, en fait, qui, effectivement, fait penser des enroulements d'un serpent géant. Donc, vraiment un exemple de comment la manipulation, simplement le fait, en fait, de découvrir et de manipuler diversement à une matière peut donner forme en fait à un design complètement différent. Là encore la même matière, hein, toujours la base de feuilles d'acrylique travaillées sur des formes d'enroulement très très différents. Alors la gamme de coloris est volontairement restreinte chez Iris Van Herpen. On a des tons très clairs, on a des beiges, des grèges, des blancs cassés, des noirs, des gris, des irisés. C'est pour focaliser sur la forme, en fait. Hein. C'est pour focaliser sur l'importance de la lumière, le mouvement et les détails. Là, vous avez d'autres pièces dont de son collection Synesthesia. Donc, Synesthesia est une condition neurologique où il y a des personnes qui sont atteintes de troubles dans le ressenti, des différentes sensations. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent goûter des couleurs, qui ont des mélanges en fait, dans leur perception des sensations. Donc, le nom, c'est synesthésien. Et là, Iris Van Herpen a travaillé justement avec ces lanières de diverses matières qui bougeaient diversement, hein, une fois mis en mouvement, pour que, en fait, à l'œil, en fait, on ne comprend pas nécessairement tout à fait l'objet en fait qu'on a sous les yeux. Là encore, la robe squelette, hein, la skeleton dress, l'a réalisée en deux pièces. Avec la notion de l'impression 3D. Et là, elle parle de la genèse de cette œuvre-là en disant qu'en fait, c'était à l'occasion, en fait, elle a eu l'occasion de faire un saut en parachute. Et elle voulait rendre un peu ses sensations au moment où, en fait, elle a effectué son saut. Et elle avait l'impression qu'en fait, son corps se dilatait dans tous les sens. Et en fait, elle a rendu matériel hein, cette impression, ce ressenti qu'elle a eu à travers en fait le dessin du squelette en fait du corps. Là, une autre pièce en haut, réalisée encore avec la technologie, l'impression numérique 3D. Alors pour vous dire. D'une collection à l'autre, je pense qu'il y a une continuité dans son travail. Il y a des matières qui reviennent, il y a des formes qui reviennent. La grande inspiration quand même pour Iris Van Herpen, c'est la nature. Alors, après, par exemple, dans la collection Micro, d'ailleurs, il y a un exemple là, encore une pièce. Quand on voyait de près, on pouvait imaginer que l'inspiration était un peu l'architecture gothique. Encore une pièce réalisée en impression numérique 3D. Or, en fait, l'ensemble des pièces de sa collection, la source d'inspiration, c'était les photos macrophotographiques d'un biologiste sur en fait tout ce qui est les petites bestioles microscopiques qu'on voit pas, mais qui sont sur nos corps, hein, voilà, les acariens et autres, donc qui ont cette vie tellement proche du corps, mais qu'on on coexiste avec ces êtres sans vraiment les connaître. Et c'était parce que, comme, en fait, si on les découvrait là, agrandis à des milliers de fois sur ces réalisations. Alors, les défilés d'Iris sont conçus comme... Là, vous avez une photo là, du défilé de 2013. Ils sont conçus comme des œuvres totales et font le sujet de collaboration avec des artistes, hein, souvent de nature artistique. Là, cette collection-là a été présentée au Cirque d'hiver à Paris. Et là, on voit des éléments qui sont en fait découpés en laser, hein, découpe laser. Il y a d'autres éléments qui font plus un travail d'origami. Hein, la veste, en fait, tout à fait à gauche. Là, vous avez la créatrice là en coulisses après cette exposition-là, et vous voyez, en fait, elle porte une de ses créations, dont une création plus simplifiée, hein, pour la ligne prête à porter, mais où on voit quand même ce travail de lassage du cuir, en fait, sur le haut de la robe. Son défilé le plus récent auquel j'ai pu assister en janvier, et donc qui a eu lieu en fait à Paris dans la salle de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle. Donc, en fait, là, c'était des sculptures organiques qui flottaient dans l'espace, dans la galerie, des sculptures réalisées par l'artiste Peter Gentenard. Alors là, l'inspiration, c'était des vues aériennes de la Terre. Alors, les photos sont toutes floues. Je suis désolée, les mannequins marchaient trop vite pour mon appareil photo. Mais je vous invite, si vous voulez regarder les pièces maintenant, c'est vrai que... Moi, je pense que c'est très bien quand on a l'occasion d'aller à un défilé. J'apprécie beaucoup. C'est des moments quand même assez magiques. Mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, on voit beaucoup mieux les pièces une fois que sur nos ordinateurs. Parce que là, on a des bons photographes qui ont fait les photos et on peut vraiment voir les pièces. Parce que souvent, on n'a pas la chance aussi d'être au premier rang. Donc, des fois, on a des personnes plus grandes que nous qui nous cachent aussi les vues. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez assez magique de pouvoir être présent pour découvrir en avant-première les pièces. Là, vous voyez d'ailleurs, c'était la pièce de fin de défilé qui est un peu une sculpture mouvante, hein, telle que les sculptures qui étaient présentées dans la galerie. Plusieurs vues de pièces, dont vous voyez là notamment, hein, cette robe qu'on a en tout premier plan. On voit des motifs découpés au laser qui bougent en fait avec les mouvements du corps de la femme. On revoit ces mêmes types d'inspirations dans sa collection 2013. Donc voilà, on peut pas parler dans ce sens-là d'une évolution, mais c'est vraiment une continuité dans le travail en fait d'Iris van Herpen. Donc, en conclusion, là, vous avez des pièces plus récentes. Nous, à la Cité d'Antenne, nous suivons toujours avec beaucoup d'attention le travail d'Iris et nous sommes contents parce que, effectivement, nous pouvons découvrir ses œuvres à travers les derniers défilés. Et nous invitons donc Iris dans le cadre de la prochaine exposition que nous préparons pour cet été, qui s'intitule Haute dentelle. C'est du 9 juin 2018 jusqu'au 7 janvier 2019. Dans cette exposition qui illustre comment les directeurs artistiques, les créateurs saisissent la matière dentelle dans leur création ultra-contemporaine. C'est vraiment une exposition sur la période très récente, les 5 dernières années. Donc, dans le cadre de cette exposition, nous allons présenter dans 2 pièces en dentelle livers, avec mélangé à la découpe laser. Là, c'est une pièce en fait de sa collection prête à porter. C'est une deuxième robe toujours prête à porter. Là, vous voyez un détail où en fait elle a mélangé donc vraiment le motif de la dentelle avec cette ceinture donc qui est en cuir découpe laser, mais elle a vraiment retressé, hein, la dentelle avec cette dentelle. Là, vous voyez bien dans le détail cette ceinture en cuir. Et là, c'est très intéressant pour nous parce qu'on a toute l'histoire de la dentelle. Donc là, vous voyez la dentelle telle qu'elle est sortie en échantillonnage, c'est une dentelle qui a été créée en 2006, qui s'appelle Bristol, donc qui a effectivement un dessin très, très nervuré comme ça. Et donc, nous avons la chance, parce que nous connaissons le créateur, le dessinateur qui a créé cette dentelle, et donc nous allons avoir cette histoire-là. C'est un petit peu ça, ces coulisses qu'on veut présenter dans l'exposition qu'on présente d'authentelle. Mais nous allons aussi présenter, par exemple, cette pièce-là, donc, qui est une dentelle, mais une dentelle en trois dimensions, une dentelle réalisée en impression 3D. Et voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Je voulais juste savoir en fait son travail.
Oui, c'est bien. Ouais, mettez-vous debout, ce sera plus facile.
Bon. Son travail pose des questions de l'ordre de la conservation. Comment est-ce qu'elle se positionne? C'est une créatrice qui est muséalisée de son vivant, qui utilise.
Oui, alors, il y a effectivement ces pièces dans certaines collections musées. Nous avons pu acquérir une pièce après l'exposition, mais nous n'avons pas acheté une pièce avec les nouvelles technologies de l'impression 3D. Nous avons acheté une pièce où elle utilise plutôt des techniques plus traditionnelles qui sont l'utilisation de cuir, de lassage et de la dentelle. Donc, mais de toute façon, typiquement, toutes les conditions, parce que c'est les matières textiles sont quand même parmi les plus fragiles. Hein. Donc, ça demande quand même un contrôle d'hygrométrie de à peu près 50%. Pas de lumière. Donc, on essaie quand même de les entreposer dans des réserves où il n'y a pas de lumière directe. Pas de poussière. Il faut les regarder régulièrement pour vérifier que l'état ne se dégrade pas. Si ils sont posés à plat, il faut faire attention pour pas qu'il y ait des créations de plis. Alors, beaucoup de ces œuvres sont trois-dimensionnelles. Donc, ça pose plus de difficultés parce que ça prend plus de place, effectivement, pour les entreposer. Nous, par exemple, quand les pièces sont arrivées pour l'exposition chez nous, comme c'était le musée de Groningen qui avait en tête d'organiser une exposition itinérante avec plusieurs lieux, ils avaient conçu des mannequins sur mesure et les robes, en fait, voyageaient déjà sur les mannequins. Donc, quand vous voyez déjà les volumes, parce qu'elle a des pièces très sculpturales, il y avait des caisses monstres. Bon, entre nous, ça va, c'était transport routier avec des camions entre les Pays-Bas et Calais, c'est pas très loin. Mais après, l'explosion est partie aux États-Unis. Et là, je sais que ça voyageait plusieurs années aux États-Unis. Et je pense que justement, les musées américains, ce sont. Il y a plusieurs musées qui ont proposé de reprendre l'exposition pour pouvoir diminuer les frais, ne reste que de transport d'œuvres, parce que c'est là où, en fait, il y a beaucoup de frais, parce que ce sont des pièces fragiles. Hein. Et je ne sais pas, je pense qu'on avait parlé avec César qu'effectivement, le métropolitain avait dû trouver vraiment des contraintes très importantes en termes de conditions de conservation de la pièce qu'ils avaient achetée, qui était en impression 3D. Mais ça existe aussi pour l'art contemporain. Je pense que nos collègues de l'art contemporain, ils ont encore plus de soucis que de ce côté-là que nous qui travaillons avec le couture.
Est-ce qu'elle considère que ces œuvres sont des œuvres artistiques ou véritablement des vêtements?
Alors, en fait, elle, quand on lui a posé la question, mais pourquoi fashion design, elle a dit parce qu'en fait, les œuvres, ils prenaient toute leur importance sur le corps. Donc, pour elle, c'est des vêtements. Mais elle a des clientes parce qu'elle a ses lignes prêtes à porter. Pas la haute couture. Après, bien sûr, il y a des stars, il y a des chanteuses qui peuvent porter ces pièces exceptionnellement, mais ça reste quand même des pièces de défilé et des prototypes. Tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai vu le travail qu'elle faisait aussi sur le prêt-à-porter, et c'est très artisanal. Et elle m'a expliqué, alors ça, c'était en 2013-2014, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais en fait, ces lignes de prêt-à-porter sont très limitées parce qu'en fait, il y a tellement de travail artisanal qu'en fait, elle, par exemple, elle ne va pas envoyer plusieurs séries dans divers magasins. Elle va vraiment limiter presque à des précommandes parce qu'elle ne peut pas fournir. Parce qu'il reste quand même beaucoup de main-d'œuvre. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le fait qu'il y a autant de nouvelles technologies, mais aussi autant de main-d'œuvre d'hommes et de femmes, en fait, pour réaliser ces créations.
Donc, c'est de la couture.
C'est du prêt-à-porter, couture. Ouais, ouais.
Du coup, moi, j'avais une question. Je suis là.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de l'organisation de son studio de création? Combien de personnes, si vous savez, comment ça s'organise?
Je ne sais pas, parce que depuis 2013, je ne suis pas retournée dans l'atelier. Quand nous sommes allés, c'était pour chercher justement l'œuvre en fait, qu'on avait acquise. Et il y avait peut-être une quarantaine de stagiaires, mais qui venaient du monde entier. C'est ça qui était intéressant. Je pense qu'ils n'étaient pas payés. Voilà. Voilà, mais c'est ce qu'on. Mais en même temps, je comprends. C'est une petite maison qui est encore indépendante. Ils ont pas les moyens, malheureusement, en fait, de. Oui. Voilà.
Ouais, allez-y. Vous nous avez parlé. Excusez-moi. Vous nous avez parlé du poids. Du poids.
Du poids.
Ouais. Semble aérien.
Il y a des choses qui sont très très légères.
Voilà, ouais.
Après, est-ce qu'il y a des pièces vraiment très très lourdes? Alors nous, les pièces qu'on a manipulées pour l'exposition, non, elles étaient pas très lourdes, hein, parce que les impressions numériques 3D, ça pèse pas beaucoup. L'acrylique, ça pèse pas beaucoup. Celles qui pouvaient certainement être les plus lourdes, c'était ceux des chemical, celles d'après, avec les nuages, parce que là, quand vous voyez quand même. C'est quand même en métal, hein. C'est quand même un fil tissé métallique et c'était quand même beaucoup, beaucoup. Donc, là, de par le volume, c'était important.
Vous avez interrogé les personnes qui les portaient pour
non.
savoir comment elles se sentaient à l'intérieur
non,
de ces vêtements,
non.
de ces formes, de ces sculptures.
Moi, j'ai vu souvent des personnes qui portaient ces créations lors des défilés, mais c'est déjà des pièces qui sont plus près de prêt-à-porter que de la haute couture. Ces pièces-là qu'on voit, ce sont presque des prototypes. Hein. Là, les pièces que vous voyez sur l'exposition, elles sont pas portées. Voilà, elles ont peut-être été commandées une ou deux exemplaires pour des chanteuses, par Björk ou par voilà.
Les impressions en 3D coûtent excessivement cher. Elle est sponsorisée, comment elle fait?
Alors ça, je pense qu'effectivement, Materialize a dû certainement faire un partenariat avec elle parce qu'ils voyaient aussi leur intérêt. Je sais que là, dès ses premières collections, elle travaille avec une société qui est un chausseur et qui s'est lancée aussi dans un partenariat avec elle pour pouvoir produire des chaussures en 3D parce qu'ils voyaient l'intérêt de s'associer à une créative. Donc, bien sûr, elle a des partenariats, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'elle elle va pas diffuser cette information-là.
Si vous voulez plus d'informations sur son atelier et son financement, elle travaille, on vient de linker sur Twitter un article qui a été publié sur elle dans le New Yorker, un très très grand long profil. Et je vous le recommande vivement. Et il est sur Twitter. C'est
voilà.
Alors veuillez m'excuser, moi je vais être un peu rabat-joie, mais je voulais savoir si dans toutes les études de nouvelles technologies, les créateurs se rapprochaient du corps médical, puisqu'on est en train de découvrir que certaines matières sont appelées à être interdites et très dangereuses. Et cette année vont sortir plusieurs matières, entre autres celles qui ne se repassent pas, parce qu'une robe portée à même la peau, c'est comme une pommade.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde de nouvelles matières?
Ça, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vous dire. Je sais juste que dans le domaine de la dentelle, il y a quand même une entreprise de dentelle qui travaille avec le corps médical pour pouvoir travailler sur une dentelle qui pourrait être utilisée pour des transplants, en fait. Parce que justement, cette technique méchée de la dentelle peut être utilisée pour des raisons médicales. Et dans le domaine de la dentelle, par exemple, je sais que c'est les demandes clientèle sont parmi les plus strictes parce que notamment le dentaire travaille beaucoup pour le milieu de la lingerie. Et donc la lingerie, c'est quelque chose qui est porté près du corps, sur le corps, et qui aussi doit être lavé très régulièrement, très souvent. Donc les demandes de la clientèle des dentelliers sont parmi les plus rigoureux et les plus contraignants. Après, pour les jeunes créateurs aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus même au niveau des ingénieurs, parce que là où en fait où on se pose beaucoup de questions, c'est sur tout ce qui est nanotechnologie. Mais c'est pas uniquement dans le vêtement, c'est dans notre alimentation, dans notre maquillage, nos dentifrices, parce qu'on n'a pas le recul. Certains disent que en fait ça se cumule dans les tissus, dans le cerveau. On ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps.
Et c'est pour ça que j'ai de très proches personnes qui sont dans ces recherches-là médicales. Mmh. Et cette année va sortir des choses sur des tissus.
Voilà. D'accord. Ouais.
Ce que je demandais. Veuillez m'excuser.
Merci. On va passer à notre deuxième intervenant. Merci beaucoup, Shazia.